Radio Campus Grenoble.
Les chemins de traverse de la recherche.
Bonjour Corinne Pontier, Samson Pignot, Ève Longchin. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui pour ce septième volet des chemins de traverse de la recherche.
Merci pour cette invitation.
Merci à vous. On va revenir aujourd'hui ensemble sur la résidence Vortex que vous avez menée, Ève, Corinne et puis les autres de la compagnie ici même, avec deux collectifs qui avaient été invités à ce moment-là, collectif CISO et le collectif Oasis, on en parlera rapidement. J'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Ça avait été pour moi aussi une super expérience, puisque c'était un peu pour moi l'occasion de vraiment commencer à expérimenter ce qui était un petit peu côté un peu plus création, pratique et aussi la place que pouvait avoir la création dans la recherche. C'était un moment aussi super pour se plonger dans vraiment un travail de terrain qui m'a beaucoup apporté pour la suite. Donc on en parlera aussi ensemble si ça vous intéresse, avec beaucoup de plaisir. Je vous laisse peut-être d'abord vous présenter si vous le souhaitez.
Alors, je suis Corinne Pontier, comme tu l'as dit, Célia. Je parle avec la casquette, je situe ma parole du point de vue du groupe ici même, ce vieux collectif créé en 1993, mais toujours jeune. Et dans ce collectif, dans ce groupe de travail, on pratique des situations expérimentales depuis donc des années et qui sont particulières parce qu'elles se créent toujours dans des espaces qui sont non dédiés à la représentation au départ. Ça ne nous empêche pas de faire des petits détours par des théâtres, des grandes scènes et tout ça, mais la pratique, la recherche, l'endroit de l'expérimentation, c'est vrai que ça part toujours de ces espaces communs, publics, et je laisse la place à mes collègues.
Eh bien, peut-être que je vais faire exactement pareil, je vais dire... je m'appelle Samson Pignot et ma parole se situe...
Je m'appelle Ève Longchamp et ma parole se situe...
À la fois.
Du côté
ici même.
D'ici même.
Et
seulement du côté d'ici même, pour ma part.
Et moi aussi, du côté d'un collectif qui a été invité à l'époque par ici même, qui s'appelait CISO. Et avec lequel on avait été invité aussi, parce qu'à cette époque, on travaillait autour des... aussi de choses créatives, pas dans des espaces dédiés à l'art et à la création. On s'était rejoint sur ce côté-là. Et en même temps, je commençais à venir embarquer dans des aventures d'ici même.
Voilà.
Ok. Et bien moi, je m'appelle Célia Virginie. Et je suis donc docteur en études cinématographiques et à terre actuellement attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'UGA. J'ai eu une des activités également avec un collectif qui s'appelle Oasis, collectif qui était de programmation et de création. Et je pense qu'on s'est aussi rejoint et retrouvé avec ici même autour de cette volonté d'investir aussi des espaces publics de manière différente. La particularité de ce collectif, c'est d'avoir repris, et puis j'en reparlerai brièvement, un festival qui s'appelait donc le Festival du film ethnographique, qui a été créé en 1996, pour l'avoir d'une certaine manière un petit peu subverti aussi, puisqu'on en a fait un festival itinérant, et l'idée c'était vraiment en fait d'occuper des espaces différents de la ville, de faire se rencontrer des publics aussi différents autour de propositions cinématographiques variées. Donc vraiment aussi une volonté d'aller à la rencontre de l'autre, à travers non seulement des rencontres de lieux, des rencontres de personnes, mais aussi des rencontres avec des cinémas différents. Je vais directement enchaîner sur rapidement l'histoire de ce festival du film ethnographique, puis notre rencontre avec ici même, donc Lynn, Eve et puis le reste de l'équipe. Donc moi j'ai rejoint le festival du film ethnographique en 2017 en fait, à travers Jacopo Rasmi, que vous connaissez très bien, qui était un copain, camarade de thèse, qui est actuellement lui enseignant-chercheur maintenant en art visuel et études italiennes à Saint-Étienne, et qui avait justement rejoint Oasis il n'y a pas très très longtemps, et qui avait envie de donner aussi une nouvelle impulsion à ce collectif avec d'autres personnes. Donc on a été nombreux à intégrer cette vieille association, puisqu'elle date de 1996, mais d'une certaine manière un petit peu nouvelle, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en fait en même temps en 2017. Je pense que cette année-là, on était plus de 10 ou 11. Hein, donc on était très nombreux. Et puis d'une année à l'autre, le collectif s'est un petit peu resserré, à mesure aussi qu'on a cherché un petit peu à développer peut-être une programmation un peu plus cohérente, mais aussi un peu plus radicale au niveau de nos choix et de nos envies. Donc ça nous a mené notamment en 2019 à créer une édition qui s'appelait Haut la nuit, et qui a vraiment marqué notre rencontre, en tout cas ma rencontre, puisque Jacopo, vous le connaissiez déjà, et puis vous connaissiez aussi d'autres personnes déjà d'Oasis, mais moi ça a été le début de notre collaboration, et puis voilà ma rencontre avec Oasis. Vous nous aviez invités à intervenir au sein du Train Fantôme, qui est vraiment votre QG. Peut-être qu'on peut parler rapidement aussi de ce lieu, le Train Fantôme.
Le Train Fantôme, c'est un endroit qui est au bord des voies ferrées et qui est dans une proximité avec la gare, avec le marché. Et en fait, c'est notre lieu atelier. C'est le lieu de fabrique, de recherche, le siège social d'ici même. Et c'est aussi un lieu qui accueille des temps de recherche d'autres artistes, des petites résidences, de manière modeste, parce que c'est sur nos fonds propres. Et en fait, oui, la rencontre avec Jacopo, le Train Fantôme était devenu le lieu habité par le festival Haut la nuit. Donc quand il y avait des projections à la Cinémathèque, les gens revenaient manger là, et puis... Enfin, on avait ouvert cet espace-temps avec grand plaisir pour accueillir le festival. Ça fait partie des accueils dans ce lieu, Train Fantôme.
Ouais. Oui, c'était vraiment une belle expérience. Peut-être que vous voulez, Corinne, ou... Ouais.
Compléter sur peut-être plus l'expérience de Haut la nuit, justement.
Ouais, et puis de ce qu'on a fait ensemble au Train Fantôme.
Haut la nuit, c'était un temps... ici même, aime bien avoir des sortes de fils, je dirais pas des thématiques, mais plutôt des explorations avec des petits enjeux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on était dans un moment où on réfléchissait à la ville. La ville et ses écrans nocturnes de nuit. Ici même marche, on n'a pas présenté un peu l'âme d'ici même qui repose sur trois piliers très importants qui sont la marche, l'écoute, l'exploration, avec tout un volet qui se décline autour de promenades sonores, promenades radio guidées, etc. Et la marche de jour, mais la marche de nuit, et aussi bien sûr tout un travail, un volet de questions autour de comment on se parle dans la ville, comment on ouvre des dispositifs et des espaces de prise de parole sous toutes ces formes, en fait, la parole publique, la parole dans l'espace public. Voilà. Et du coup, Haut la nuit, c'était un moment où on réfléchissait, il y a eu plusieurs éditions d'ailleurs, où on réfléchissait à cette ville constituée de multiples écrans, et on vous avait invité justement... en tant qu'écran, pour faire lien avec ces écrans qu'on allait observer dans la ville, dans un moment où effectivement dans les villes on parle d'éteindre un peu les lumières, d'être économe sur l'énergie, et où nos explorations nous amenaient à observer que beaucoup de vitrines restaient allumées la nuit, et donc c'était une exploration qui allait chercher un peu cette question et cette interrogation. Et on terminait notre promenade par des projections que vous aviez organisées, et ça s'articulait avec cette exploration des écrans de la ville.
C'était, si je me rappelle bien, c'était une promenade aussi où ici même embarquait les personnes qui voulaient bien venir embarquer avec nous, avec des bancs. Et donc c'était une marche de plusieurs heures, si je me rappelle bien, et il s'agissait vraiment, oui, d'installer son point de vue devant des écrans, des images en mouvement, mais même des fois, des vitrines fixes. Enfin, qu'est-ce qui fait écran? Mais c'était vraiment au sens large. Enfin,
et une recherche. On savait pas ce qu'on allait trouver. Ouais. Et c'est ça qui était intéressant à partager avec vous, c'est qu'on partait vraiment dans un état d'esprit exploratoire et qu'on découvrait des choses et que des événements un peu incroyables se sont passés dans cette nuit-là.
Si j'ai bien souvenir, il y avait une histoire de pizzeria, je crois, où on était rentré dans une pizzeria parce qu'elle était très éclairée. Et puis dans la nuit, c'est très actif, une pizzeria, il y a des livraisons. Et on a passé un bon moment là-bas. Et le lendemain, pendant une émission radio qui restituait la nuit, en fait, on avait appris que la pizzeria avait brûlé le soir même.
D'accord.
Enfin, c'est hasards et c'est...
Très cinématographique.
Très cinématographique, ouais.
Et
dramatique.
Et puis, on avait fait des rencontres pendant cette marche exploratoire et qui avait comme une thématique... c'était que des gens qui avaient un rapport avec le cinéma, les gens rencontrés. Donc, il y avait Vincent Sorel qui sortait de Cézou et qui nous a raconté une anecdote à propos des projecteurs cinéma qui avaient été jetés quand il y a eu la rénovation du Pâté. Après, on a rencontré le président du ciné-club de Grenoble. Enfin, c'était en fait l'état exploratoire de cette nuit nous a amené à rencontrer... quand même,
notre sujet.
On aurait pu croire que c'était fait exprès, quoi.
Ouais, c'est marrant. Et c'est rigolo parce que c'était aussi le nom de l'édition du festival du film ethnographique de cette année qu'on avait choisi aussi au La Nuit. Et peut-être dans cette logique aussi, peut-être de subversion, de pas de côté, j'avais proposé au Train Fantôme eh bien, une programmation sonore où ce parcours de la nuit se faisait en fermant les yeux, donc en se détournant des écrans pour ouvrir grand les oreilles et puis écouter autrement les sons de la nuit et projeter aussi autrement nos images, nos imaginaires également. C'était très intéressant de faire ça au sein du Train Fantôme qui, je trouve, c'est un lieu qui a aussi vraiment une présence, en fait, qui est très intéressant à habiter ensemble aussi, parce que la particularité de cette programmation sonore, c'est qu'elle avait lieu au même moment où une résidence avait lieu aussi à l'étage. Donc on avait vraiment aussi une vraie vie au sein du Train Fantôme, une vraie circulation entre différentes expériences sensorielles qui était aussi très riche et qui m'a aussi beaucoup marquée.
C'est chouette ce que tu dis, parce que je retrouve en toi, Célia, cette attention au temps, aux archives et notre mémoire, nous, elle a été traversée par tellement d'autres expériences depuis. Et puis on est un peu des habitués du lieu, donc on oublie de remarquer, et tu parles de cette attention-là, on oublie de remarquer souvent des petites choses qui sont fondamentales dans notre perception des lieux, des espaces. Ce que disait Eve tout à l'heure sur cette manière de partir en exploration avec juste une attention. On se dit, tiens, on va cadrer notre attention sur quelque chose en particulier. Et on découvre que, voilà, dans ce temps-là, tout est là, en fait. Et c'est l'en commun de l'expérience, c'est de se concentrer ensemble sur une certaine attention. Et toi, tu la remarques au Train Fantôme, on l'oublie parfois.
Oui. Oui. J'avais été marquée aussi, alors c'est une anecdote parmi d'autres, toujours, et je trouve que c'est la richesse aussi de ces moments collectifs, par les retours que nous font les personnes qui participent à ces expériences, et notamment les retours de jeunes étudiants étrangers qui venaient à Grenoble dans le cadre de leurs études et qui m'avaient dit, à la suite de la programmation de son d'un chroniqueur de la BBC que j'ai programmé, et puis je vais en reparler également parce que j'ai reprogrammé certains de ces sons au sein du Vortex pour notre résidence, qui avait donc, lui, enregistré la nuit les locaux de la BBC avant leur fermeture totale, en fait. Et il avait justement capté une sorte d'âme des lieux, la petite musique, en fait, matérielle, du bruit, du vent, du bois qui travaille parfois, en fait, ce qui reste de ce lieu qui allait disparaître, ces dernières traces. Et puis, il m'avait dit, c'est intéressant parce qu'il avait appelé ça, je crois qu'il avait appelé ça les fantômes de la BBC. Mmh. Et il m'avait dit, mais c'est très intéressant parce que c'est une représentation fantomale très occidentale. Et c'est dans des moments comme ça aussi qu'on arrive à justement à prendre conscience de certains imaginaires, de la place de certains imaginaires aussi, et aussi de toute la richesse, la polyvalence qu'il peut y avoir autour de nos représentations de la nuit, de ce qu'est le fantomal. Et voilà, ces petits moments aussi sont très riches aussi de partage.
Et est-ce que tu te rappelles du nom de ce...
Oui, alors c'est le nom du chroniqueur, tu veux dire ?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est Robin de Fogg. Mmh. Si tu veux, je pourrais te passer son contact. C'est quelqu'un de super, oui. Vraiment, avec qui le contact était super bien passé, très généreux, qui avait d'ailleurs fait de la pub pour le Vortex sur les ondes de la BBC.
Allez.
Waouh.
Et donc, donc on s'est rencontrés à l'occasion de cette édition qui était passionnante, qui était très belle. Et vous nous aviez proposé prendre un petit bout de chemin, de continuer ce petit bout de chemin ensemble pour aller investir sur un temps limité le Vortex avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire de votre lien avec le Vortex et peut-être le campus de Lausanne ?
Alors, oui. Pareil, un espèce de ralentissement qui...
Ouvre. Peut-être rappeler ce que c'est le Vortex. Je suis pas sûr que c'est.
Oui, tout à fait, tout à fait. Non, tu fais bien.
Alors, vas-y.
Ah, bon. Alors, allez, le Vortex. Si je résume bien, c'était une résidence étudiante qui venait d'ouvrir à l'époque, qui était quasiment inaugurée et qui avait l'originalité d'être une architecture hélicoïdale. Ouais. Donc, on pouvait partir d'en bas, il y avait 45 minutes de coursive pour arriver jusqu'en haut et vice-versa pour descendre.
Et qui était prévu pour loger 1000
étudiants.
Exactement.
Alors que sur le campus de Lausanne, il n'y avait pas de logement étudiant, en fait.
C'est... Ah ouais, pas du tout. Non. Pas du tout. Ah ouais, ok.
Et je complète sur l'histoire de ce lien avec l'université. Tout est parti d'une expérience avec le théâtre universitaire de l'université, donc qui s'appelle Lagrange, et d'une rencontre avec la programmatrice de l'époque de ce théâtre qui nous a fait intervenir en tant qu'équipe qui va travailler le contexte d'implantation du théâtre sur le campus et non pas un projet de programmation classique à l'intérieur, mais plutôt avec des enjeux d'aller-retour et d'interroger la transformation à venir du campus. Et du coup, ici même, était en résidence comme on peut l'être dans d'autres territoires. Mais là, notre aire de travail était l'université elle-même, avec ses dessous, ses dessus, ses jardins, son lac tout près. Et un projet urbain qui incluait l'arrivée de ces 1000 futurs résidents étudiants. Mais on ne savait pas au moment où on commence à travailler avec Lagrange que quelque chose continuerait. Et ça, c'est ce qu'on aime souvent dans nos projets, c'est quand l'écriture se fait pas à pas, de rencontre en rencontre, ce qui devient de plus en plus compliqué avec cette logique d'appel à projet qui se développe partout et où, qui, je trouve, fige un peu les constructions des écritures et des aventures et des imaginaires à venir, parce qu'on ne sait pas tout quand on arrive quelque part. Et là, voilà, petit à petit, la rencontre se fait. On quitte le théâtre et le travail se poursuit avec le recteur de l'université. C'est pas tout à fait la même structuration que chez nous. Mais voilà, on travaille, on est invité, ici même est invité à explorer, questionner le chantier lui-même. On a commencé à travailler avant que la résidence ne soit sortie de terre. Ça, c'était assez intéressant de comprendre, essayer de... de regarder déjà les usages existants dans cette partie de l'université.
La première rencontre avec la grange, ça arrive 3 ans avant la sortie du bâtiment. Hein,
tout
c'est
à
ça
fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Avec la problématique, la commune, le campus est situé sur Lausanne et le campus, la résidence Vortex, va apparaître sur une commune qui jouxte Lausanne, mais qui n'est pas tout à fait Lausanne. Et donc cette petite commune voisine,
Chavannes-Prérenans,
tout d'un coup voit arriver 1000 résidents. C'est un petit peu comme la fameuse histoire grenobloise où de tout le monde est né à la tronche, et la tronche est obligée, la ville de la tronche, d'enregistrer des milliers de naissances, alors c'est une toute petite commune. Donc voilà, ça pose des questions d'usage et de mode de vie, de vivre ensemble dans 1000 étudiantes sur une toute petite commune qui arrive d'un coup, c'est énorme.
Et à la fois 1000 étudiants qui ne sortent pas forcément du campus de Lausanne et du Vortex. Donc c'est là aussi tout le paradoxe.
Et voilà.
On va
en parler.
Ouais, bien sûr, on va en parler. La résidence 2020, elle vient un petit peu aboutir cette recherche. C'est ça que vous aviez entamé des années plus tôt. Quand est-ce que vous êtes arrivé en fait? Quand est-ce que vous avez commencé à travailler avec
la grange?
Oui, avec la grange.
Oh, bah dès les années 2017, je pense.
2017, ouais. Hein. 2017-2018, d'accord. Ouais. On peut peut-être passer un extrait justement sonore d'archives hein, que vous aviez prise sur place à l'occasion d'une marche nocturne en 2018.
Station 4, altitude 0. Feuilleton radiophonique. Numéro 1.
Proposé par ici même Greux.
En résidence à la grange de Dorigny.
Avec radio fréquence banane.
Agence de conversation. Anthropole. Une île face aux baies. Lausanne, le 06 12 17. À la cafétéria. À venir l'avenir à 17h. Café, expresso, petit goûter, point chaud. Réconfort. Face au jour qui décroît. Parlons de décroissance, mise au point d'exposé à venir, conversation avec son smartphone, fond d'écran, azur, le ciel est bleu et le coca, zéro carbone. Où est le centre du bâtiment, de la page, de la conversation? Quelles en sont les limites, les frontières, les passages secrets, lieux de convivialité, recoins où dormir, se laver les dents. Petite cartographie des usages estudiantins. Territoire de chasse. La forêt n'est pas loin. Le gibier non plus. Vivre en autarcie, se baigner dans la rivière, creuser un terrier, habiter une cabane, pêcher peut-être.
Alors, que vous vous souvenez, j'imagine que oui, hein, de ces moments de captation, enregistrement et du contexte dans lequel vous étiez à ce moment-là?
C'est Radio Banane, c'est ça, hein. C'est Radio Banane, c'est la radio du campus de l'UNIL. Et ce qui est lu, c'est des conversations, donc des situations de rencontres avec les usagers, les étudiants, ceux qui sont là, de conversations et une machine à écrire d'ici même qui consigne la situation. Pas des paroles d'étudiants ou de professeurs, mais qui écrit à partir de la situation et du dispositif.
Et donc, tout le monde était amené à taper sur cette machine à écrire, ou est-ce que vous étiez les personnes principales à...
C'est ici même qui écrit et même. Qui assume complètement son écriture très subjective.
Le bruit de l'eau, ces feuilletons étaient diffusés au cours d'une marche nocturne. J'ai un grand souvenir dans le hammam. D'avoir écouté ce feuilleton au petit matin dans le hammam du campus.
Du complexe sportif.
Du complexe sportif qui avait autorisé qu'à 6h du matin, on termine la nuit de marche dans ce hammam. Et le bruit de l'eau qu'on entend, pour l'anecdote, parce qu'ici même, ces explorations de jour comme de nuit, d'ailleurs, font des allers-retours entre ce qu'on observe, ce qu'on ressent, des petites fictions, mais aussi une réalité documentée presque. Le bruit de l'eau, c'est le bruit de l'eau. Qui sous cette université qui est adossée au lac, un circuit d'eau qu'on peut explorer souterrain sert de refroidissement ou de chauffage selon la saison à l'ensemble des chaudières et de l'entrepôt. Et donc on avait demandé l'autorisation de pister avec nos marcheurs participantes et participants ce petit canal souterrain et c'est ce bruit de l'eau qu'on entend là.
Et c'est vraiment très intéressant parce que je vois que sans savoir hein, tout ça, parce que c'est vrai qu'on est arrivé il faut dire qu'il y a eu aussi hein, la pandémie Covid-19 qui a un peu chamboulé le projet, hein, puisqu'au départ c'était une résidence qui était prévue pour 3 mois si je ne me trompe pas, puis qui a été finalement ramenée à 3 semaines, hein. forcément tout repenser, et puis les temps aussi pour les collectifs invités ont été aussi de la même manière condensée, de la même façon. On est resté une semaine pour expérimenter des choses avec vous sur place. Et forcément, difficile, hein, dans le peu de temps qu'on avait, de pouvoir découvrir. Donc ça me fait super plaisir de découvrir cette histoire-là aujourd'hui. Mais c'est marrant de voir comment on s'est complètement rejoint sans forcément le savoir autour de ces recherches, je dirais presque généalogiques et un petit côté aussi géologique, presque avec ce rapport aussi au terrain, au territoire. Parce que nous, et je vais surtout parler de moi, hein, vraiment les recherches que j'ai mené avant d'arriver au Vortex, c'était comment est né cet énorme projet, où est-ce qu'il prend place, de quelle façon il prend place. Donc il y avait les informations qu'on pouvait trouver à partir de journaux tels que Le Temps, ce genre de choses. Et puis j'ai tout de suite été amenée, via mon goût pour les archives qui progressivement a pris de plus en plus de place, à aller directement voir du côté des archives cantonales, des archives municipales, et de replacer aussi l'histoire hein, en fait, de la construction du campus de Lausanne et de la place qu'avait le Vortex au sein de ce campus. Donc j'ai collecté des roches de construction qui dialoguent complètement avec certaines vidéos qu'a pu capter Fred, hein, si je crois, hein, c'est bien lui, d'ici même lors de vos vos passages, tout à fait, lors de vos passages précédents. J'ai aussi collecté parfois des archives sonores, parfois des petits moments journalistiques, mais aussi beaucoup de photographies de chantier. Et c'est ce qui m'a amené également à voir que ce projet qui, au départ, paraissait complètement être un ovni, aussi une prouesse architecturale, parce que ça en est une, hein, d'avoir vraiment comme ça une architecture complètement ronde. Avec là, j'ai quelques données, donc cette couronne circulaire avec une seule rampe de 2,8 km quand même, qui permet d'accéder à tous les appartements du complexe. C'est une prouesse architecturale.
C'est à voir, c'est
sûr. C'est à voir et c'est à habiter et aussi jusque dans ses limites, parce que comment aussi habiter un tel espace, on en reparlera. Voilà, on pourrait se dire que cet espace-là est un ovni au sein du campus de Lausanne, et il s'avère qu'il s'ancre complètement dans une tradition de ce campus-là, qui est d'accueillir des bâtiments complètement hors normes, des prouesses architecturales, et c'est ce que j'ai remarqué en faisant vraiment ce travail de collecte et d'archives, et c'est ce que j'ai aussi voulu mettre en évidence à l'occasion donc, d'une installation et d'une exposition que j'ai menée au sein de la crèche aussi, espace habité collectivement et avec des publics mixtes au sein donc de cette résidence universitaire.
C'était une crèche donc qui était juste un espace au moment où on était là-bas, une crèche en devenir dans le vortex quoi, dans
Tout
le projet de ce bâtiment qui logeait 1000 habitants, il y avait une crèche prévue.
Et je serais curieuse de savoir ce qu'il en est, hein, cette crèche aujourd'hui. Est-ce qu'elle est utilisée, investie ? Parce que c'est vrai que nous, on est arrivés au moment où les étudiants venaient d'arriver dans ce lieu. Donc la vie commençait à peine à se mettre en place et elle avait été directement aussi stoppée par le Covid. Donc on a eu aussi cette difficulté hein, à trouver de la vie au sein du vortex quand on est arrivé et à mettre en place comme ça en fait un rythme de vie pour toutes ces raisons-là.
Il y avait, si je me rappelle bien aussi, c'était un peu la découverte du bâtiment pour les étudiants eux-mêmes et puis pour les gens qui y travaillaient. Et il y avait quelques absurdités qui étaient découvertes au moment même, par exemple la nuit. Évidemment, les étudiants allaient faire la fête au milieu de l'enceinte. Et en fait, c'était une cage de réverbération complètement dingue.
Donc, oui, c'est un donuts, en fait, ce bâtiment. Et au centre, il y avait un espace vert, des bancs, enfin, de quoi bien s'installer pour faire la fête.
Donc, c'était le décalage qui était marrant à constater, je crois, entre la prouesse architecturale et la découverte empirique de qu'est-ce que les humains en font.
Et le son qui tourne.
Le son, les lumières, H24, hein, qui s'allument automatiquement chaque fois que quelqu'un passe
devant un appart sur la coursive.
Tout à fait,
L'utopie architecturale mêlée de l'utopie des futurs usages projeté. Il y avait vraiment un écart à constater et des choses à... Par exemple, j'ai le souvenir aussi de cette anecdote du système de gardiennage. Il y avait donc des vigiles qui étaient là pour éviter plusieurs écueils. Le toit n'était pas terminé. On avait peur que les étudiants aillent faire la fête sur le toit. Et puis voilà, assez vite, ces problèmes de bruit, de voisinage, en fait, tout simplement. Puis des habitants pas très loin du vortex dans la commune voisine qui étaient vraiment tout proches et qui entendaient cette nouvelle arrivée, ces fêtes, et c'est cette difficulté acoustique vraiment qui posait des problèmes aux gardiens qui étaient obligés de trouver depuis quel endroit le son prenait sens. C'était tellement complexe, les façades d'entrée de studios et de chambres des résidents, qu'on ne pouvait pas, à l'oreille, trouver d'où venait la source du son. Donc ils étaient obligés de trouver des points de vue stratégiques d'observation. C'était complètement dingue. Et en fait, c'est vrai qu'assez vite, la question de l'univers carcéral aussi est arrivée.
Les panoptiques.
Côté panopticon. Je pense qu'il nous a sauté aux yeux.
Malgré nous, une place d'usager, puisque c'était ça ce qui avait été négocié dans le cadre de cette résidence, c'est d'être les premiers habitants et de vivre au même rythme que les premiers étudiants, les premiers temps de vie de ce lieu, avec évidemment la problématique du Covid, avec un enjeu, je le dis maintenant, on peut le dire, c'est passé, mais il y a eu des cas de Covid, et l'angoisse première des responsables de ce site, c'était que le campus ferme, en fait. Et il ne fallait pas que ça ferme. Et en fait, on a habilement un peu détourné, contourné quelques éléments factuels pour que ça ne ferme pas.
Et je me rappelle que cette résidence, donc elle a vécu au rythme hein, de ses arrivées, d'étudiants au sein de ce bâtiment universitaire, des habitudes prises progressivement ensemble, mais aussi de la participation de certains chercheurs, chercheuses. Hein. Il y avait plusieurs chercheurs en cinéma hein, qui étaient là, Laurent Le Forestier et d'autres qui pouvaient participer à plusieurs des activités qu'on a menées ensemble, que ce soit des installations vidéo ou des projections visuelles cinéma ou les nuitées, tout
des
à fait.
Des invitations à venir vivre
ouais, tout
ces
à
premières
fait.
Nuits.
Ouais. Tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'on peut en reparler rapidement d'ailleurs hein, de ces nuitées.
Alors, comme l'a dit Corinne, on ici même habitait au même titre que les étudiants. Donc, on avait un appartement.
Et que les collectifs CISO Oasis.
Voilà. On avait un appartement et on avait un pas de porte. Et en fait, on avait un appartement pour les invités. Justement, on avait proposé qu'il y ait cette invitation et cette possibilité pour d'autres qui n'étaient pas étudiants, qui n'étaient pas artistes, de venir vivre ces premières nuits au Vortex. Mmh. J'ai un petit trou de mémoire, mais il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et on a eu toutes les nuitées complètes, je crois.
Surtout, si je me rappelle bien, les gens venaient aussi avec décoration
pour l'appartement.
Ouais.
Donc ça faisait une sorte d'appartement un peu patchwork.
Témoin et patchwork.
C'est ça, tout à fait.
On faisait un repas c'était d'accueil drôle. Sur la coursive.
Oui, il y avait ce moment, effectivement, aussi, ces temps assez conviviaux où on pouvait être rejoint parfois par des habitants du Vortex, des personnes qui venaient comme ça pour des nuitées, des chercheurs, des chercheuses. Je me rappelle même aussi d'un chercheur spécialiste des Vortex
qui avait amené un tableau.
Qui avait amené tout à fait un tableau.
Un tableau et un vortex.
Une peinture de vortex.
Une peinture de sa fille.
Et un petit objet qui représentait
modélisé,
un vortex.
Ouais, un vortex modélisé.
Tout à fait.
Et rapidement, les usages aussi que ça a généré pour nous de faire des kilomètres à pied dans ces coursives pour accueillir et créer une situation d'hospitalité agréable pour nos invités. Avec toutes ces coursives, bien qu'il y ait des ascenseurs, on a passé un temps fou. À marcher en fait. Le nombre de kilomètres qu'on faisait par jour dans cet immense lieu et ces immenses coursives étaient vraiment frappants.
Ouais, c'est vrai qu'avec a posteriori, on peut l'oublier, mais on a beaucoup marché, on a beaucoup veillé aussi. Je sais que ça a été un temps de résidence extrêmement intense. On pouvait travailler jusqu'à, je pense qu'on ne se couchait pas avant 1h30, 2h du matin, et on travaillait jusqu'à minuit et demi, 1h. Hein. C'était intense, parce qu'il y avait toujours des préparations, des installations, et puis aussi beaucoup de choses qui arrivaient de manière assez spontanée. Et c'était aussi, je trouve vraiment la beauté aussi de cette résidence, de faire aussi en fonction des envies, des énergies des uns des autres, des rencontres qui pouvaient se faire, qui n'étaient pas prévues et qui arrivaient comme ça. Donc vraiment aussi être ouvert à ce partage.
Oui, je pense que quand tu évoques ça, pour nous, peut-être pour CISO, il y a quelque chose de commun entre nous tous, c'est cette envie de... Et c'est un luxe hein, parfois d'arriver à trouver ce temps-là, mais de créer des situations en fait. C'est-à-dire comment réfléchir en amont plutôt qu'à de la production d'objets qui à un instant T sont représentés et convoquent un regard extérieur. Là, c'est plutôt comment entrer dans un travail qui en amont crée des dispositifs qui vont être le réceptacle de plein de choses qu'on ne peut pas toujours prévoir à l'avance, mais qui vivent et qui existent, qui coexistent, parce que le dispositif le permet. Mmh. Et donc, c'est tout l'enjeu des amonts de nos projets, de créer des situations et des espaces à investir, à vivre ensemble. Voilà.
Et c'est aussi dans cette logique-là qu'on pouvait être amené à voir, à chercher peut-être d'autres lieux à habiter ensemble, à chercher à rencontrer d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a conduit assez rapidement, peut-être aussi pour cette dimension un peu carcérale du vortex, à chercher à sortir en fait du vortex très vite et à trouver une vie hors du vortex, à côté du vortex. Et j'ai découvert ces terrains de rugby et cette buvette juste en face. C'était vraiment comme une sorte d'oasis, on peut le dire, à deux pas des coursives et du vortex. Et donc, c'est aussi ces moments-là et l'ouverture également des personnes avec lesquelles on peut être amené à collaborer de façon complètement spontanée qui permettent certains événements, certaines créations. Là, en l'occurrence, l'ouverture, vraiment, la spontanéité du gérant de la buvette des terrains de sport qui m'a tout de suite dit « bien sûr ». Si vous voulez faire du cinéma, apporter du cinéma un soir ici, venez, on vous accueille. Donc, voilà, il y a ces moments de rencontre aussi qui peuvent avoir lieu grâce à l'investissement, à l'accueil de personnes qui ne faisaient pas forcément initialement partie du projet, mais rentrent directement dedans. Autre élément aussi qui m'a beaucoup marqué, parce que là je parle de ce gérant de la buvette des terrains de sport, plus largement aussi la façon qu'ont eu certains étudiants de rentrer dans plusieurs activités, de suivre aussi les créations qui étaient proposées, les installations, les projections qui étaient proposées, et de vivre ces moments-là avec nous, de les partager, et puis aussi de rappeler la place que ces événements ont eu dans leur vie à ce moment-là. Moi, je me rappelle en particulier d'un étudiant qui me disait j'ai pas du tout les idées noires, je suis quelqu'un d'extrêmement social, mais avec ce qui se passe en ce moment, et puis dans cet espace du vortex, on est chacun dans sa chambre, en fait, c'était très dur pour moi. Et là, vous avez apporté quelque chose et c'était nécessaire. Et c'est vrai que ces moments-là aussi sont des moments très forts.
Je pense, juste pour rebondir là-dessus, j'ai l'impression des retours de discussions qu'on avait pu avoir sur cette expérience. Effectivement, en fait, le fait qu'il y ait, c'était une installation, des performances d'ici même, mais une présence continue, en fait, ça avait l'air d'être hyper important pour en fait, les résidents, les étudiants, parce qu'il y a plein de moments complètement vacants. Où en fait, si on n'a pas d'interlocuteur ou je sais pas, de présence de gens à aller voir, en fait, ça pourrait vraiment être pris en charge par ce genre de structure, enfin d'endroit.
Une présence permanente, tu voudrais
dire. Une forme de permanence artistique qui est parfois inclue dans des projets urbains, quoi, en fait. Et c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qui est acquis, mais qui pourrait vraiment exister de manière un peu comme une méthode évidente.
Un peu durable, qui peut réagir et transformer des situations, réagir à ce qui se passe en fait dans le bâtiment.
C'est sûr que ce serait super.
Et c'est vrai que ça fait écho aussi à une direction de travail de cette université en particulier. Alors, on n'a pas assez d'éléments pour voir ce que c'est devenu, mais vous vous souvenez qu'il y avait un master qui s'appelait Durabilité. Je pense que il y a toujours des choses positives et moins... il faut toujours décrypter les situations très politiques aussi, quand on est président ou recteur d'une université. Mais il y avait quand même une volonté dans cette université, que ce soit du côté de la Grange, où on avait travaillé en amont, et avec cette équipe de commanditaire, finalement, de la présence d'ici même, un enjeu lié à ce master durabilité et à une recherche en Suisse et dans cette université en particulier, très orientée vers quand même des pratiques... transversale, en écho à l'écologie et aux transformations climatiques. On le voit dans l'architecture, mais aussi avec aussi la naissance de, vous vous souvenez, de l'épicerie...
J'allais en parler,
voilà. Une ferme urbaine tout proche, un marché et une AMAP directement sur l'université, ça c'est déjà donc il y a quelques années. Voilà, évidemment, il y a des points aveugles dans tout ça, il y a des choses qui n'ont pas marché ou qui sont des idées seulement, mais pas assez ancrées dans la réalité. Mais nous, ça nous a marqué quand même cet ensemble de positions.
Et il semblerait que le Voras existe toujours. On suit la page Facebook du lieu qui est toujours d'actualité pour le coup. Et c'est vrai qu'effectivement, on était venu en fait sur cette résidence avec un ensemble de projections et toute la programmation qu'on avait élaborée et que j'avais aussi pour certaines parties d'entre elles élaborées seule, c'était une programmation qui était pensée en fonction justement de l'espace et de comment habiter l'espace, comment trouver aussi un point de des éléments de rencontre avec les personnes qui l'habitent parfois différemment. Donc on avait cette projection qu'on a projetée au sein du vortex de film de Nicolas Ball, Super Cafout, sur justement l'histoire aussi d'une épicerie de quartier qui venait complètement dialoguer avec ce qui se passait avec ce vorace, épicerie étudiante qui venait comme ça investir les lieux du vortex. Pour parler peut-être rapidement d'autres programmations, on avait parfois aussi élaboré une programmation jeune public, justement à la recherche de ce public familial qui habitait en friche du vortex et qui pouvait être amené aussi à rentrer dans le vortex. On voulait qu'il y ait vraiment, en tout cas je voulais qu'il y ait vraiment cet investissement en fait de ce bâtiment par d'autres personnes et d'autres publics que le public universitaire et étudiant. Et puis bon, bah voilà, on n'y arrive pas, et ce serait intéressant de voir ce qu'il en est encore une fois aujourd'hui.
C'est juste, je rebondissais sur ces articulations entre la mémoire des lieux, les usages d'avant, et puis ce qui naît, ce qui répond à des nouvelles questions plus d'actualité, vraiment ancrées dans des problématiques du moment, quoi. Et juste pour ne pas oublier que quand même, justement, ce théâtre universitaire, et là j'ai une petite pensée pour Dominique Hauser qui en était la directrice, se questionnait justement dans ce sens-là, et c'était pas toujours bien compris. Justement, ce théâtre faisait venir des gens de l'extérieur, et on pouvait, si on analysait un peu de travers les choses, trouver que c'était l'inverse, justement, que trop de gens venaient de l'extérieur. Donc c'est juste pour évoquer ces mécaniques et ces mécanismes d'aller-retour qui sont des mouvements dans une vie très longue, et souvent on prend les choses à l'aune d'un moment, d'un instant T, mais voilà, et on répond à quelque chose qui est un manque de juste d'avant. Enfin bon, voilà, on s'intéresse beaucoup à ça parce que c'est vraiment notre expérience de 30 ans qui nous montre que souvent on est un peu trop serré sur le temps T, on l'aime beaucoup cet instant T, mais il faut toujours le resituer.
Oui, c'est pour ça que je disais que peut-être que les choses bougent beaucoup. Donc pour j'avais parlé rapidement de Robin de Fogg aussi, de cette programmation sonore qui a été aussi ramenée au sein du vortex pour une installation sonore et puis aussi parfois pour des expérimentations. Et Robin, c'est quelqu'un de, comme j'ai dit tout à l'heure, de très généreux, qui m'avait donné toutes ses créations sonores du moment et qui m'avait dit écoute, amuse-toi avec, fais-en ce que tu veux, travaille-les, ralentis, monte-les, et puis projette-les comme tu as envie dans l'espace. Donc il y a eu aussi des jeux qui se sont faits avec des enceintes portatives pour essayer aussi de diffuser ces créations très particulières qui sont aussi une attention à des espaces vides et qui pouvaient aussi dialoguer beaucoup avec le vortex, qui était souvent un espace peuplé, mais aussi un espace qui pouvait paraître très vide, de par son aspect gigantesque. Alors je vois que on va bientôt être à court de temps, et j'aimerais qu'on parle quand même, qu'on reparle ensemble de cette marche nocturne qu'on a faite avec vous, à l'occasion de laquelle on a pu aussi j'ai pu participer à une petite installation vidéo. Pour établir ce dialogue, je vais revenir sur une archive qui est sur votre site, qui avait pris place à l'occasion d'une marche aussi nocturne, un petit peu différente.
Alors, lo giorno se n'andava e l'aere bruno toglieva gli animali che sono in terra delle fatiche loro, e io sol uno m'apparecchiava a sostenere la guerra, sì del cammino e sì delle pietate che ritrarrà la mente che non erra, o muse o alto ingegno or m'aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Io cominciai Poeta che mi guidi, guarda la mia virtù.
C'est difficile de savoir.
Se ne può sentire.
Ma pas trop de repères.
C'est deux fois, c'est une ligne. Donc là, on parle comme ça.
En même temps, je suis en train de voir que AB, BC, c'est quand même un angle droit.
Oui, c'est un angle droit.
En fait. Mais ça tourne pas. Alors, c'est l'avant-dernière chance.
És nem emlékszem már teljesen, hogy melyik résznél, de azt hiszem, hogy a főszereplők közül ketten éppen valami viccelődtek, de...
Nem így tudom, Medina. A Medina, drága fel a magában a nyárját, nyertját. Tehát úgy jövő fog tudtuk, hogy nem gégyavaj. Gégyavaj fog fel a kumász. Fofu la commencé jangi dugu école pour la commencé jang français après
alors bien mais तो आज की क्लास में हम हिंदी पर बात कर रहे हैं, हिंदी फिल्मों पर बात कर रहे हैं. और मैं दाफने से पूछती हूँ कि आपने कौन सी हिंदी फिल्म देखी है और क्या आप हिंदी में उस फिल्म के बारे में कुछ बोल सकती हैं?
Bajare Kolji Hatman ave Batman e Batman e Galak Petrol hai و آوا دیجیل جناب ده در باست به لباتمان من گله که بری ادیا خواه کریه جبر که سه ساله از می کارم بچم باجاره خواه جبر که من پولیسی براسی از پر بفازم ادیا خواه بگیرم
Un transect, c'est une ligne droite.
Ah. Ouais, je crois.
C'est ça.
Ouais,
j'en m'étonne pas. Parce qu'en fait, le seul moment où tu poses
c'est quoi nos rendez-vous?
Genre ça? On a un rendez-vous?
Corinne, est-ce que tu veux revenir sur...
Que de souvenirs.
Ouais.
Oui, c'est intéressant de recontextualiser. Ben, une des étapes de travail avant de pouvoir écrire la suite autour du vortex a été... toujours pareil, à partir d'exploration et d'une attention observée du réel, cette envie de faire une collection de toutes ces langues parlées, parce que la particularité de cette université suisse, c'est de rassembler des communautés d'une manière incroyable. Donc on a, notre travail a été de passer pendant un certain temps à travailler en complicité avec des enseignants en langue, à récolter, collecter toute une série de langues qu'on entendait là, et sans forcément les traduire comme une musicalité. Et d'ailleurs, la première voix, c'est pas un étudiant, hein, cette très belle voix qui parle en italien. J'ai oublié de me rappeler le texte que ce monsieur lit, c'est le buraliste de l'université. j'avais repéré cette voix incroyable qu'il avait et qui est un Italien. Et y a toute une histoire dans cette université de personnes qui sont arrivées là parce qu'il y a cet ensemble de communautés linguistiques et que ça attire. Y a cette chanson qu'on entend, ça c'est par contre avec un petit groupe de c'est l'enseignante qui vient de Tchécoslovaquie, je crois, et qui invite ses étudiants à chanter pour la collection de langues. Voilà, il y a une cartographie de toutes ces langues qui était à l'époque avait été publiée sur le site de l'université, mais ça passait par voilà, une collection qui passait par ses étudiants venus de partout, mais aussi les salariés, les personnes investies sur le campus, notamment, par exemple, on a un peu plus loin dans ce compte, dans cette archive qui n'est pas là, qui n'a pas été entendue, la voix du fondateur du restaurant universitaire.
Oui, j'allais en parler, justement.
Qui était un monsieur qui était arrivé sur ce campus par la voie des chantiers, qui avait ouvert une cantine de chantier et qui a tellement aimé le lieu qu'il a demandé à rester et à perdurer. Le buraliste dont on entend la voix au début de cette archive est là depuis toujours et n'a jamais souhaité. Il a eu un autre travail, il faisait ça au début en plus de son premier travail, et retraité, il maintient cette activité parce qu'il aime être là et entendre parler toutes ces langues et dans cette énergie.
Et ce mélange de culture qu'on retrouve jusque dans le restaurant universitaire, en tout cas quand on y était encore à la banane, où on pouvait avoir justement des cuisiniers de nationalités différentes qui allaient proposer des repas issus de différentes régions du monde tous les jours. Ça, c'était aussi assez incroyable, mais finalement très caractéristique aussi de la multiculturalité de cet espace et qu'on entend bien dans cette archive sonore. C'est vrai que la marche, je vais en parler rapidement parce qu'on arrive en fin d'émission, mais c'est la marche qu'on a faite ensemble dans le cadre donc de la résidence 2020. Elle venait un petit peu dialoguer, en tout cas s'inscrire dans cette démarche de comment habiter un lieu aussi parfois à la lisière de ce lieu, à la lisière du vortex, et cette fois-ci pas avec des voix différentes, mais des médias différents et puis des archives issues de différents moments de la construction du vortex. Donc il y a eu les archives qu'a pu prendre Fred de la compagnie ici même, qui sont venues dialoguer avec des rushs que j'avais collectées, des archives cantonales. Il y a eu des moments de radio qui ont été aussi captés et puis présentés, mis en voix par Jacques. Donc aussi de la compagnie ici même, on a participé comme ça à une sorte de marche, de marche collective nocturne, en étant très ouvert aussi finalement à toute l'histoire de ce lieu, à ses particularités d'un point de vue, j'ai envie de dire, très matériel, sensoriel, puisque c'est vraiment, il y avait vraiment cette dimension aussi marche entre un milieu très architectural, urbain, et puis naturel, avec ces bribes de forêt qui étaient gardées, et puis cette mémoire aussi qu'on actualisait complètement de ces archives qu'on faisait renaître et qui donnaient comme ça qui venaient rappeler aussi l'histoire de ce lieu à différentes temporalités de manière complètement simultanée. Alors avant qu'on aborde le dernier point, qui est le point vraiment, on pourra dire un petit peu qui a été, alors consécration n'est pas le mot du tout, mais en tout cas qui a permis aussi de garder une trace collective de cette résidence, avant d'aborder ce point qui est justement le journal diffusion qui s'appelle donc Vortex.
Microclimat.
Microclimat, merci beaucoup.
Bruit de papier.
je vais juste dire que voilà, ça a été un moment aussi extrêmement riche pour moi en termes d'expérimentation, pas de côté de la recherche, du côté aussi d'une recherche-création qui m'a amenée juste après cette résidence à rester à Lausanne pour m'intéresser aux archives de la Cinémathèque suisse, et continuer à travailler sur des archives à différents niveaux, beaucoup plus en lien avec mes recherches du moment doctoral, et qui m'amène aujourd'hui à être toujours dans cette recherche aussi, un petit peu recherche-création, pour la suite de mes recherches postdoctorales, pour aller vers vraiment des mises en lien de gestes de filmage, retrouver comme ça une esthétique commune à partir vraiment d'un travail qu'on pourrait dire un peu warburgien, de collecte de traces aussi, de traces, de gestes, et je trouve qu'on peut retrouver ces choses-là. Moi, je pense en tout cas que l'expérience qu'on a vécue ensemble a beaucoup nourri ces recherches et ces envies. Donc, pour revenir à Vortex Microclimat, peut-être que sans tu veux dire quelques mots sur ce journal, et puis dans le temps qu'on a, ce serait chouette de pouvoir vous entendre faire aussi une petite lecture improvisée.
Peut-être que je peux décrire ce que j'ai devant moi. Alors oui, c'est un journal qui a été édité donc par ici même et avec la participation de ses invités, donc Oasis et Cisso, qui s'appelle donc Microclimat et qui regroupe des textes qui ont différents statuts, comme des agences de conversation dont on a parlé, donc des textes à la machine à écrire, une sorte d'encyclopédie bizarre qui s'appelle Les Histoires Naturelles, donc constitué par Cisso, un retour d'expérience de cinéma par Oasis, des images, un jeu de la conversation. Et donc, ces conversations, on peut peut-être vous en lire une petite, très rapidement.
Très, très rapidement.
De moins d'une minute.
C'était le 5 décembre 2017.
Le 5 décembre 2017.
Et il avait un projet.
J'avais un projet.
Un projet.
Un beau programme.
Un projet.
Un beau programme à réaliser.
Un beau projet.
Des perspectives, des prospectives.
Un beau programme, un projet.
Des plans sur la comète.
Tracé au cordeau sur table d'architecte.
Virgule. J'avais un beau projet à réaliser.
En fait, j'avais un plan quadrillé avec tous les équipements, les flux, les services à la personne.
J'avais un slogan.
J'avais analysé les besoins, la mobilité, la connectivité.
Virgule, virgule.
J'avais
virgule,
la matière.
Virgule, virgule.
Et j'avais l'antimatière.
Virgule, 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 virgule.
J'avais
virgule,
un trou de mémoire.
Un trou noir.
J'avais un trou noir.
Un trou noir.
J'ai laissé un vestige, un vertige, un vestige. Perdu dans mes pensées. Mais paradis annulé. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, paradis annulé.
Paradis annulé.
À des années-lumière absorbé, j'ai laissé un vestige.
Bref.
Voilà.
Un vertige.
Bref.
Voilà. La reconnaissance vocale.
Un vestige.
Voilà.
Un vestige. Un vertige. Bref.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec moi pour cette émission, Les Chemins de Traverse de la Recherche.
Merci, Célia.
Merci.
Merci.
Les chemins de traverse de la recherche.